C'est l'heure de la revue de presse. Il est 8h23 ici à Paris et Norbert Navarro est avec nous en studio. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec à la une de la presse hebdomadaire, la grève dans les chemins de fer en France, Édouard Philippe affiche sa fermeté et Nicolas Hulot sort du silence.
Nous irons jusqu'au bout, lance le Premier ministre en une du Parisien dimanche. Pour Édouard Philippe, l'ouverture des chemins de fer à la concurrence et la fin du recrutement au statut actuel des cheminots sont des sujets qui ne sont tout simplement pas négociables, dit-il à ce journal. Quant à Nicolas Hulot, il prend vraiment le train en marche. Alors, étant rappelé que La République En Marche est le nom du parti du président, la tribune signée par Nicolas Hulot, que publie ce matin le journal du dimanche, a tout du deuxième flanc, d'une sorte de contre-offensive du pouvoir exécutif, face à la grogne des Français consécutive à la grève des cheminots, en colère contre la réforme ferroviaire voulue par Emmanuel Macron. Contre-offensive dont le point d'orgue justement sera jeudi l'intervention d'Emmanuel Macron dans le journal de 13h de la chaîne de télévision TF1. Le gouvernement a le devoir de remettre l'entreprise sur des rails soutenables, écrit Nicolas Hulot dans le JDD. C'est avec le train que nous construirons ensemble une mobilité durable, sans pollution, pour tous. Nicolas Hulot sort donc du bois. Or, son silence depuis le début de ce conflit majeur n'avait pas manqué de surprendre, car le ministre de la Transition écologique et solidaire a la tutelle des transports. Jusqu'ici, c'est surtout Elisabeth Borne, la ministre chargée des transports, auprès de Nicolas Hulot, qui était montée en première ligne avec des fortunes diverses.
Oui, car événement insolite, un journal cette semaine a tout simplement refusé de publier un entretien pourtant réalisé avec Elisabeth Borne.
Oui, c'est le quotidien économique Les Échos qui a dit niet, refusant de publier cet entretien, au motif qu'il avait été par trop réécrit par les services du Premier ministre. Quand l'interviewé est ministre, il ouvre les parapluies comme un fonctionnaire, remarque le Figaro Magazine. Il se fait lire par les services de Matignon, voire par l'Élysée. La multiplication des ministres techniciens, comme précisément Elisabeth Borne, béotien en politique, a encore accru le phénomène. Les Échos ont voulu, avec raison, arrêter une dérive, mais ce sera un coup d'épée dans l'eau, soupire le Figmag.
En tout cas, la grève dans les chemins de fer reprend, elle, aujourd'hui.
Oui, les cheminots en colère n'ont pas digéré d'être traités de rentiers privilégiés. Dans Marianne, le dessinateur Lasserre a croqué un couple de voyageurs déboussolés arrivant à la gare et découvrant un panneau sur lequel est écrit « Pas de train » en raison d'une grève des rentiers privilégiés. Cette réforme des chemins de fer va-t-elle porter ses fruits ? Dans l'Obs, un professeur de sciences politiques à Paris explique pourquoi la réforme ferroviaire va vers l'échec. Selon lui, il est probable que l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire soit sans effet une fois mise en compétition dans un cadre les unes contre les autres, du fait des impératifs de sécurité, mais aussi des manœuvres dilatoires de la SNCF, les entreprises privées vont rivaliser en baissant les prix, pas en faisant preuve d'imagination radicale, écrit-il. Quelle que soit l'issue du bras de fer actuel, la réforme en cours risque donc d'être un échec, martèle-t-il dans l'Obs.
En attendant, Norbert, l'État va se désengager de la Française des Jeux.
C'est le journal du dimanche qui révèle le projet de privatisation de la Française des Jeux. L'État mettrait sur le marché 50% des parts qu'il détient dans cette société de Paris. Revoilà les privatisations.
Et l'affaire Alstom à présent. Alors qu'un ancien cadre de ce fleuron de l'industrie française vendu il y a 3 ans et demi à l'américain General Electric est toujours en prison aux États-Unis, une commission d'enquête parlementaire française doit rendre ses conclusions dans une semaine sur cette affaire.
Oui, une affaire ultra sensible qui ressemble à une partie de poker menteur, prévient l'Obs, qui s'interroge sur les secrets d'un possible scandale d'État. Frédéric Pierucci, c'est le nom de ce Français qui fut vice-président des ventes de la branche énergie d'Alstom, est détenu depuis pas moins de 5 ans aux États-Unis. Le 18 mars dernier, sa femme a écrit au président Macron pour lui demander d'intercéder auprès de Donald Trump afin d'obtenir la grâce de celui que l'Obs a baptisé le prisonnier de l'affaire Alstom. C'est le 14 avril 2013 que la justice américaine a mis Frédéric Pierucci sous les verrous, tout en lui demandant de collaborer avec le FBI dans une enquête sur des faits de corruption présumée du groupe Alstom, ce que ce cadre loyal à son entreprise a refusé de faire. En réalité, la justice américaine s'intéressait de près aux activités à l'exportation du groupe français, Son PDG d'alors, Patrick Cron, a-t-il bradé Alstom pour échapper à des poursuites qui le visaient personnellement, cédant ainsi à un chantage exercé par les États-Unis ? L'Obs pose cette question alors qu'une commission d'enquête parlementaire, vous le disiez, instruit ce dossier. Et tandis que Frédéric Pierucci continue de croupir en prison, l'hebdomadaire rappelle qu'en vendant la branche énergie de son groupe à General Electric, Patrick Cron, lui, a engrangé un bonus estimé à plus de 4 millions d'euros. Affaire à suivre.
Et autre affaire, celle qui concerne la psychanalyste Julia Kristeva, qui aurait été espionne des services secrets bulgares.
Et c'est encore le magazine L'Obs qui révèle cette affaire en publiant des documents extraits de la sécurité d'État en Bulgarie. Julia Kristeva aurait travaillé pour les services secrets bulgares sous le nom de code de Sabrina, et non cet hebdomadaire. Son agent traitant s'appelait alors Louborimov et n'était autre que le premier secrétaire de l'ambassade de Bulgarie à Paris. Le journal a eu accès à des fiches de renseignements émanant prétendument de cette femme de lettres, épouse de l'écrivain français Philippe Solers.
C'était la revue de presse de Norbert Navarro. Norbert, on vous retrouve juste après le journal pour la Une de Jeune Afrique. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.